calculais mes heures avant de trouver l'aiguille. J'aimais ça la noirceur et brille. J'humais pas les fleurs avant de sentir la bise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'étais pas un suiveur avant de trouver l'église. J'étais pas mauvais pêcheur avant de toucher la rive. Je sentais pas la peur avant que je chavire. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. Je cherche la lueur, j'ai perdu ma balise. J'ai brisé son cœur, j'ai éteint la lumière vive. Le feu plein d'ardeur qui couvait sous sa chemise. J'avais pas vu son cœur, mais là je vois ma bêtise. De bonheur ont plombé ma valise. J'ai le goût des couleurs, mais je me sens tour de piste. J'irai voir le passeur, il faut que je lui dise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brille. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise. J'avais pas vu son cœur avant qu'il brise.
Trouve cette chanson de David Portelance sur son album Un abri contre le vent, et la chanson s'appelait J'avais pas vu son cœur.
Actualité culturelle, bibliothèque, l'histoire de Livres dans la rue prend fin. Le programme Livres dans la rue, qui depuis 35 ans porte les livres et les animateurs hors des murs des bibliothèques de Montréal pour les mener à la rencontre des jeunes de milieux défavorisés, cessera ses activités en mai prochain. Son budget n'a pas été renouvelé par l'administration Plante, qui a choisi de suspendre le programme temporairement pour la prochaine année, selon la réponse officielle de la Ville. En clair, indique dans un courriel la direction des bibliothèques, les activités du programme Livres dans la rue se termineront le 4 mai 2018. Christiane Charrette, organisatrice de 1982 à 2015 du programme, Christiane Charrette ici, ce n'est pas l'animatrice bien connue, elle est choquée par cette fin abrupte. C'est une formule peu coûteuse et toute simple, écrit-elle dans une lettre ouverte adressée à la mairesse Valérie Plante est transmise au devoir. Un homme ou une femme passionnée, engagée, animateur avec un sac à dos rempli de livres d'ici et d'ailleurs qui va à la rencontre des enfants défavorisés. Dans les HLM, dans les services de garde, des écoles, dans les parcs montréalais laissant à disposition les livres sur une large couverture posée à même l'herbe pour les curieux qui veulent y fouiner d'eux-mêmes ou lisant aux intéressés, comme le raconte Anne-Marie La Criolla, qui y a lu, parlé et compté comme animatrice 10 ans durant. Au moment même où Montréal se dote d'une politique de l'enfant qui vise à donner accès à la culture à tous les enfants montréalais, poursuit Mme Charrette, qu'au gouvernement du Québec, le ministre de l'Éducation, Sébastien Proulx, a octroyé de l'argent pour encourager la lecture ainsi qu'un plan pour les 0-8 ans, votre administration a décidé de couper un programme qui a fait ses preuves depuis 35 ans. Pourtant, son but est, avec le plaisir partagé, d'éveiller le désir de lire et de donner le goût de la lecture, un des prérequis à la réussite scolaire, c'est à n'y rien comprendre, s'indigne la bibliothécaire retraitée. Depuis 1982, Livre dans la rue a attiré 325 000 présences d'enfants, recensées en 200 milieux différents, dont 70 écoles. 1 million de lectures ont été faites dans tous les arrondissements et 27 000 heures d'animation. Selon le service des communications de la ville, qui estime qu'une révision du programme s'imposait, le nombre de participants était de 19 800 en 2012 et de 16 746 en 2017. Le budget de l'an dernier se chiffrait à 112 100 $. « Ce qui me révolte et me rend très en colère », indique Hélène Charbonneau, qui a instigé le programme en 1982, alors qu'elle était chef des bibliothèques pour les jeunes à la Ville de Montréal, « c'est qu'on ne comprenne pas en quoi le plaisir est si important, à quel point c'est un outil pour former un lecteur. Sinon, on ne forme que des imbéciles consommés, capables seulement de déchiffrer », poursuit la dame de 88 ans. « On sait que le programme fonctionne. Les enfants reviennent. » Yannick Nézet-Séguin entrera en fonction la saison prochaine à titre de directeur musical du Metropolitan Opera de New York, soit 2 ans plus tôt que prévu. À l'Orchestre métropolitain, on certifie que le maestro québécois demeure son directeur artistique et le sera au moins jusqu'en 2021 et qu'il y dirigera 5 programmes lors de la saison 2018-2019. Yannick Nézet-Séguin poursuivra également ses fonctions de directeur artistique de l'Orchestre de Philadelphie, mais quittera l'Orchestre philharmonique de Rotterdam au terme de la saison 2017-2018. Le mandat de 5 ans au Met du chef québécois devait s'amorcer officiellement à la saison 2020-2021, mais le directeur musical honoraire, James Levine, a été suspendu en décembre dernier en raison d'allégations d'inconduite sexuelle. Yannick Nézet-Séguin dirigera au Met 17 concerts la saison prochaine, 3 opéras pour la saison 2019-2020 et au moins 5 chaque saison à compter de 2020-2021. C'est probablement l'une des web-séries les plus populaires produites au Québec et nous apprenons qu'une nouvelle saison dans l'audition avec Simon sera offerte à compter du 27 février sur Tout.tv. L'imbuvable réalisateur qu'on aime détester un petit peu, Simon-Olivier Fecteau, et son acolyte découragé, Étienne de Passillier, passeront cette fois en audition Marc Labrèche, Guylaine Tremblay, Antoine-Olivier Pilon et Jérémy Gabriel, entre autres. Au total, 12 nouveaux épisodes qu'on attend avec impatience. La réalisation de la 4e saison de la série Les Pays d'en haut, qui comprendra 10 épisodes, a été confiée à Yann Lanouette-Turgeon. Révélé il y a 5 ans grâce au film Roche, papier, ciseaux, Le cinéaste s'est en outre distingué en réalisant quelques épisodes de la populaire série Unité 9 ainsi que l'intégralité de la série L'Imposteur. Rappelons que la réalisation des trois premières saisons de la série avait été assurée par Sylvain Archambault, sur qui pèsent maintenant des allégations de comportement déplacé. Ce dernier a aussi été remplacé sur le plateau de la série Mensonges, dont Francis Leclerc signe maintenant la réalisation. Le tournage des prochains épisodes des Pays d'en haut commencera au mois d'août. Des suggestions sorties, rien de mieux que l'hiver pour narguer les climats en s'enivrant de poésie, merci Baudelaire entre parenthèses, pour inaugurer une nouvelle série de lectures poétiques nocturnes, la très vivante librairie Le Port de Tête accueille la poète Innu, Natacha Canapé-Fontaine, qui sera accompagnée de trois poètes de son choix, Roxane Nadeau, Maya Cousineau et Maya Cousineau-Molène et Sylvain Rivard. Il sera question de la nuit montréalaise et des directions que prennent les mots. Arrivé tôt, les places sont limitées et l'espace douillettement restreint. C'est ce soir, 22h30, au 269 Avenue du Mont-Royal Est, 5 $ ou 7 $ à la porte. Aujourd'hui, Alex Kovalev sera sur les lieux de l'exposition Passion Hockey de Pointe-à-Calière de 15h à 17h. Vous pourrez discuter et prendre une photo avec lui jusqu'à la fin février. Pensez aussi à profiter de la promotion Les week-ends sous zéro. Plus il fait froid, plus le rabais est bon. Moins 20 degrés, c'est moins 20% et ainsi de suite. Jusqu'au 29 avril, on peut voir des photos de Gabor Zilazi qu'il a faites lors de vernissages et de manifestations artistiques ayant eu lieu entre 1960 et 1980. Le monde de l'art à Montréal, à partir de dimanche et jusqu'au 6 mai, Michel Campeau nous présente « Avant le numérique », une collection de photos prises dans les années 50 par des photographes amateurs, et ça se déroule au musée McCord. Quelques concerts ont lieu en fin de semaine à la chapelle historique du Bon Pasteur. Musique sur des poèmes de Pierre Neveu, vendredi à 19h30, c'est aujourd'hui. Chansons italiennes, dimanche à 15h. Et midi concert, c'est mercredi à midi. On réserve sur le site Accès Culture, coût 2 $ par personne. www.accesculture.com.
J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses, j'aurais aimé.
Et toi?
Une main tendue, une rose.
J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences. Et maintes, maintes fois, oublier partir en vacances. En vacances de toi, mais comme l'amitié nous rattrape à chaque fois. Autant tenir quand ça dérape.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure.
Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé ne jamais atteindre une rive.
Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
sait éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure.
J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah ça, je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème.
Le groupe Trio et la chanson Ce que l'on sème.
Célébration un après-midi de chien à Montréal. Le quartier chinois nage en pleine euphorie alors qu'on s'apprête à célébrer l'année du chien de terre. C'est un article de Caroline Parent dans Le Devoir. À l'occasion des célébrations du Nouvel An lunaire qui débute aujourd'hui, jouer aux touristes dans le quartier chinois de Montréal permet de se familiariser avec des traditions dont on ignore tout, ou presque. Oh, comme on ne voudrait pas devoir voyager en Chine ces jours-ci! C'est qu'au pays de Confucius, le Nouvel An est l'occasion d'une migration monstre alors que tous cherchent à gagner ville et village et à retrouver les leurs à temps pour les célébrations. Bondés, vous dites, les trains? À Montréal, le quartier chinois nage aussi en pleine euphorie, alors que les 85 000 Montréalais d'origine chinoise s'apprêtent à s'y retrouver pour célébrer le début de l'année du chien de terre. Une visite du secteur en compagnie de Dan Lachance, guide animateur chez Tour Kaléidoscope, nous rend d'ailleurs la fête parfaitement intelligible. Au temple bouddhiste du voisinage, où les Chinois vont la veille du Nouvel An pour faire le bilan de l'année qui s'achève et accueillir la nouvelle, comme à l'herboristerie et à l'échoppe spécialisée dans la vente d'objets culturels, le passionné de la chose asiatique démystifie pour nous codes et rituels associés aux festivités qui durent deux semaines. De ces rituels, celui aux ancêtres est le préféré de cet expert des cultures chinoises et vietnamiennes. Au Québec, autrefois, on souhaitait recevoir la bénédiction du paternel. Les Chinois, eux, font plutôt des offrandes aux ancêtres pour s'attirer leur bienveillance, dit-il. Des offrandes qui ne sont d'ailleurs pas choisies au hasard. Par exemple, si on offre fréquemment des clémentines, c'est qu'en mandarin, ce fruit sonne comme le mot « richesse ». L'homophonie est très importante dans cette culture, explique Dan Lachance, qui maîtrise la plus importante des langues parlées dans l'Empire du Milieu. Brrr, c'est le printemps. On parle souvent du Nouvel An chinois, mais puisque plusieurs autres peuples d'Asie célèbrent aussi cette fête, les Vietnamiens l'appellent le Tet, les Coréens, c'est Olnal, on dit le Tet? Le Tet, oui. Alors T-E, accent circonflexe, il me semble que c'était le tête. Enfin, les Coréens se holnal, il vaut mieux dire Nouvel An lunaire ou Fête du printemps. Le printemps, un 16 février, le calendrier chinois traditionnel, Nong Li, pourrait se traduire par calendrier paysan. Et c'est à partir de ce dernier que sont nommées les activités agricoles, les saisons et les fêtes, note le guide. La plupart du temps, le Nouvel An correspond à la première lunaison à partir du solstice d'hiver. La deuxième lune, donc, et marque le début du printemps chinois, entre la fin de janvier et la fin de février, qui s'étale sur une plus longue période que le nôtre. Cette saison symbolisant le renouveau, on ne pouvait choisir meilleur moment pour changer d'année. Au fil de la promenade guidée, qui dure deux heures, on découvre la symbolique des décorations festives qu'arborent les résidences et les commerces du quartier. On aborde les spécialités culinaires préparées pour l'occasion. Saviez-vous que les nouilles représentent la longévité? On cause aussi des superstitions liées à la fête. Selon les proches asiatiques de Dan Lachance, cette année, qui se déroulera sous le signe du chien de terre, sera celle de la bienveillance. Le chien étant un animal dévoué et protecteur, cette année sera propice à l'amitié, à l'entraide et par extension à la sécurité sociale. D'ailleurs, nos politiciens ne nous ont-ils pas déjà parlé de réinvestissement après des années d'austérité? À suivre, mais pour l'heure, jouons aux touristes chez nous et profitons de l'occasion pour nous rapprocher de la communauté chinoise. L'année du chien nous y convie. En vrac, donc Tours, Kaléidoscope a prévu 2 visites par jour, les 17, 18, 24 et 25 février, ainsi que les 3 et 4 mars prochains. À noter, un dîner ou un souper peut suivre l'excursion. À voir dimanche, 18 février, de midi à 14 heures environ, la traditionnelle danse du lion, au cours de laquelle des danseurs portant un costume évoquant l'animal vont de commerce en commerce pour apporter la prospérité au son des tambours et des gongs. À savourer le 4 mars prochain, à l'occasion de la fête des lanternes qui clôt le nouvel an, des tang yuan ou boulettes de riz servies dans un sirop au gingembre. Comme c'est servi chaud, c'est très réconfortant, dit Dan Lachance, guide spécialiste des cultures chinoises et vietnamiennes. L'habilleur de champion, les médaillés d'or Tessa Virtue et Scott Moyer ont ébloui la planète cette semaine avec leurs brillantes performances en patinage artistique lors des Jeux olympiques de Pyeongchang. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est l'histoire du designer derrière les costumes flamboyants du couple. Ils sont l'œuvre d'un ancien diplômé du Collège La Salle résidant à Longueuil. À sa façon, Mathieu Caron pourrait devenir le premier Canadien à occuper simultanément les 3 marches du podium olympique. Le couturier signe les costumes de 3 duos de patineurs du Canada, les tenues des équipes des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne et de la Corée du Sud sont aussi le fruit de son imagination. Au total, il a conçu les costumes de 8 couples de patinage artistique. Dans l'atelier de sa petite entreprise Feeling, Mathieu Caron, le créateur, a savouré cette semaine le triomphe de Virtue et Moyer au cours du programme Long en danse sur glace qui a contribué à la médaille d'or canadienne en patinage artistique par équipe. Il raconte s'être mis au dessin au mois de juin pour concevoir la robe rouge tirant sur le bordeaux de l'athlète de London en Ontario. On parle d'un travail d'environ 4 mois avant les essayages sur glace. Après, je laisse aller les costumes. Ils ne m'appartiennent plus. Je donne à chaque patineur sa petite trousse d'aiguilles, le nécessaire à repriser, que j'appelle le petit kit de survie. C'est rare, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, explique Mathieu Caron. Dans le cas de Virtue et Moyer, il explique que le design des costumes a été imaginé en ayant en tête un tango contemporain. Il a l'habitude de concevoir les croquis avec l'apport des chorégraphes et des entraîneurs. Il faut aussi tenir compte de la morphologie des athlètes, de la musculation à mettre en valeur, explique-t-il. J'ai commencé par trouver l'essence des patineurs en me rapprochant du film Moulin Rouge, mais pas trop. J'ai l'habitude de d'abord monter ce qu'on appelle communément une mood board. Le défi est de parvenir à trouver l'équilibre entre le programme de danse et la musique. C'est un peu le hasard qui a voulu que cet ancien danseur devienne un designer de haute couture qui compte des athlètes parmi ses clients. Il se souvient qu'il aimait accompagner sa grand-mère au magasin de tissus. Il aimait les pochettes de patron. À 8 ans, il a commencé à pratiquer la danse sociale. Et comme il avait du talent pour le dessin, il s'est mis à crayonner. Chemin faisant, il est devenu danseur professionnel de valse. J'ai commencé à confectionner mes costumes de danse, puis ceux des amis. Je me souviens que j'avais été impressionné par les prestations aux Jeux olympiques d'Atlanta en 1996. C'était l'année où Céline Dion a chanté à la cérémonie, dit Mathieu Caron. Je me suis inscrit au programme collégial de design et mes créations ont pris de l'expansion tranquillement. Avant d'avoir ma propre ligne, j'ai œuvré dans l'univers du golf. Ça a l'air de rien, un polo, mais leurs habits n'ont rien de simple. Entouré d'une douzaine d'employés, Mathieu Caron peut aujourd'hui compter sur son bras droit, la chargée de projet Isabelle Langevin. C'est elle qui donne vie aux croquis. C'est sans oublier les couturières et les artisans aux doigts de fée qui apposent une à une les pierres de style Swarovski. On a tous les yeux rivés sur le téléviseur quand il y a une compétition. C'est indescriptible ce qu'on ressent comme émotion. Il m'arrive d'avoir les larmes aux yeux en regardant les numéros de style ballroom. Il y a un peu de nous là-dedans, confie Isabelle Langevin. En plus des magiciens de la glace, Mathieu Caron continue d'habiller des danseurs professionnels. Il reçoit aussi dans ses ateliers des futurs mariés. Un rêve? Habiller des chanteuses internationales pour la scène. Je pense à Beyoncé et à Céline, bien entendu, souhaite-t-il à haute voix. Mathieu Caron a baptisé l'événement « La Graffe Gate ». Il écoutait en direct la performance du duo Yuran Min et Alexander Gamelin dimanche quand la bretelle de la patineuse habillée de rouge a glissé de son épaule. Elle avait mal agrafé sa robe, mais il n'y avait aucun risque qu'elle se retrouve nue, contrairement à ce que certains ont pu avancer. Il y a une bretelle qu'on ne voit pas de couleur chair qui passe au niveau du dos, qui retient le tout, explique le designer. J'ai échangé avec Yuri après le numéro et on a rigolé. Elle a dit que l'incident lui a permis de se faire connaître. Par acquis de conscience, il a tout de même écrit à tous ses patineurs pour leur rappeler de s'assurer d'attacher toutes les agrafes. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable fin de semaine. Peut-être allez-vous suivre les Jeux olympiques comme plusieurs d'entre nous. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de semaine. J'espère vous retrouver lundi.